Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net.
En tout cas, c'est la parole de Dieu qui est notre guide, qui est la lumière sur notre sentier, qui éclaire nos vies. Et nous devons rester attachés à cette parole. Alors, nous avons vu tout au long de ces pratiquement 14 semaines, comme le temps passe vite. 14 semaines, nous avons bien posé notre regard sur cette doctrine de la délivrance. Nous avons abordé, n'est-ce pas, l'angle de l'Église. Nous avons abordé l'angle du royaume des ténèbres. Nous avons vu ensuite les règles spirituelles que nous devions respecter pour que le service soit efficace. Nous avons vu ces deux dernières semaines les sept clés qui permettent à ceux et celles qui pratiquent la délivrance, s'ils sont ces sept clés attachées à leur vie, alors ils sont efficaces dans le royaume de Dieu. Et ce soir, je voudrais donc ajouter une toute petite chose à ce que nous avons vu dimanche, quand nous avons terminé avec la septième clé, qui était le don, ou les dons des discernements des esprits. C'est un don spirituel. Mais j'aimerais aussi vous dire que le don spirituel est à notre service par l'Esprit Saint, mais aussi il y a une autre manière de discerner que l'Écriture nous montre, qui n'est pas le même mot, n'est-ce pas, que le discernement des esprits dans 1 Corinthiens 12. On a affaire à diakrisis, diakrino, c'est-à-dire on éprouve, on discerne, alors que dans 1 Jean, à un moment donné, Jean va dire, mes bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. Et à ce moment-là, le verbe éprouver, qui est un synonyme de discerner, est un autre mot en grec, qui est le mot dokamizo, c'est un verbe, et qui dit que ce discernement, il a comme base nos cinq sens. Ce que nous voyons, ce que nous entendons, ce que nous sentons, ce que nous touchons, etc. Donc c'est une autre façon de discerner, et ça c'est utile parce que quand on pratique une délivrance, les dons du Saint-Esprit sont nécessaires, mais ce que nous discernons par la vue aussi est nécessaire. Donc les deux vont de pair. Je vous dis ça parce que l'expérience va nous faire les choses que nous allons voir et qui vont être en harmonie avec la parole de Dieu, est aussi un discernement. Et vous n'avez pas remarqué que les gens du monde, ils ont un certain discernement naturel. Certains ont un discernement naturel. Et ils peuvent discerner aussi certaines choses. Peut-être pas sur le plan spirituel, mais ils ont un discernement. Ils peuvent dire, cette personne est bien ou cette personne est moins bien. Ou... Et ça, c'est un discernement qu'on peut avoir. Alors, lié au don de discernement des esprits et aussi le discernement par le fait des cinq sens que nous disposons. Dieu nous a donné cinq sens et ces cinq sens-là nous aident aussi à discerner. Voilà, donc c'est le petit rajout que je voulais faire parce que c'est intéressant de savoir aussi que lorsqu'on pratique des délivrances, que le Seigneur nous amène à pratiquer la délivrance, il va avoir des manifestations, et dans ce que nous allons voir, il y a un certain discernement qui est en harmonie avec le discernement des esprits. Ça, c'est très important, très très important. Alors, ce soir, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons prendre un cas dans l'Écriture, où il y a plein d'indices pour nous, concernant la manière dont se comportent les esprits quand la puissance et l'autorité du Seigneur est là, comment ils vont réagir au travers des personnes. Et pour cela, il y a une façon d'opérer que j'aime bien, parce que le Seigneur m'a conduit dans cette chose, c'est que dans les évangiles, il y a 4 évangiles. Vous le savez? Mais il y a aussi ce qu'on appelle les synoptiques. Les synoptiques, ce sont la façon de mettre le même événement vu sous l'angle de 3 évangiles différents. Et on va s'apercevoir que chaque évangile va donner des précisions que l'autre évangile ne donne pas. Et en amassant tout ce terreau, toutes ces informations, on va pouvoir avoir une bonne vue de la manière dont Jésus opérait. Et si Jésus opérait ainsi, l'Esprit Saint nous amènera à opérer nous aussi ainsi. Donc, le premier cas que nous voyons, c'est un cas qui a été mis dans l'Écriture, je crois, pour notre enseignement, pour notre instruction, parce qu'il est bourré d'informations. C'est le cas de l'enfant lunatique. Et là, nous aurons comme base 3 textes. Matthieu 17, Luc 9 et Marc 9. Et alors, on va faire un saut de l'un à l'autre, hein, pendant cet enseignement, pour voir ce que Luc a dit et que Matthieu n'a pas dit, pour voir ce que Marc a dit et que Luc n'a pas dit, et vice-versa. Donc, on va puiser une source d'information qui va être très, très, très utile. Alors, on va commencer par Matthieu 17, et à partir du verset 14, ou à partir, oui, du verset 14, et on va voir l'attitude de l'homme et son approche du Seigneur, le père de l'enfant lunatique, comment il va s'approcher du Seigneur et quelle attitude il va avoir vis-à-vis du Seigneur. C'est important. C'est important parce que on peut se dire quelle attitude et quelle approche j'ai du Seigneur quand j'ai besoin d'une libération. On va voir la manière dont cet homme va s'approcher du Seigneur et va lui parler. C'est très intéressant. Très, très, très intéressant. Alors, verset 14, il est dit ceci. Et quand ils furent venus auprès de la foule, un homme s'approcha de lui, se jetant à genoux devant lui, disant, « Seigneur, aie pitié de mon fils, car il est lunatique et souffre cruellement, car souvent il tombe dans le feu et souvent dans l'eau. » Donc, avant d'adresser la parole au Seigneur, cet homme vient vers Jésus. Il vient d'une manière volontaire, de sa propre initiative. Donc, il fait une démarche courageuse. Il s'approche du Seigneur. Il prend l'initiative. Et avant même de parler au maître, il a une attitude qui devrait nous parler à nous. Ou parler à ceux qui ont besoin de libération. Il va se jeter aux pieds du Seigneur. Et il va dire cette chose extraordinaire. Il se jette à ses genoux, qui est un signe de soumission, mais aussi de supplication. On voit que dans l'attitude du Père, il y a la soumission, il se soumet et en même temps, il va supplier le Seigneur. La délivrance n'est pas un gadget spirituel. La délivrance s'adresse à notre foi. La délivrance s'adresse à des hommes et à des femmes qui ont ce réel désir d'être libérés de certains liens qui les tiennent. Et dans ce sens, la personne qui a besoin de cela fait une approche du Seigneur, va vers le Seigneur pour lui demander et pour lui exprimer son besoin. C'est important ce que je suis en train de dire, parce que, voyez-vous, si on va en disant « ce frère, il délivre, alors on va avoir qui me délivre », tout faux. Absolument tout faux. Si tu te confies en l'homme, tu vas avoir tout faux. D'abord, tu te confies dans le Seigneur. Et ensuite, le serviteur agira parce que le Seigneur lui aura mis à cœur d'agir. Le service de libération, n'est pas un gadget spirituel. On n'est pas comme des enfants à qui on met un jouet entre les mains, qui va utiliser ce jouet, qui va le casser à un moment donné, parce qu'il en aura marre. Donc moi je vois ici deux choses très importantes. L'homme vient d'une manière volontaire. Il se jette à ses genoux, signe de soumission, mais aussi de supplication. Et après seulement, il entame le dialogue avec le Seigneur. Voyez-vous, il a une démarche qui est bonne. Je dirais, il a une saine, pas une sainte, mais une saine, saine démarche. Il vient vers le Seigneur et il entame le dialogue avec lui de cette façon. Il le reconnaît d'abord comme Seigneur. Important. Si tu veux être libéré, il faut que tu reconnaisses Jésus comme étant le Seigneur Tout-Puissant, celui qui peut te libérer. Christ libérateur. En dehors de lui, il n'y a point de libération, bien sûr. Car seul lui a gagné la victoire, seul lui a vaincu le malin. Seul lui. Et c'est par grâce qu'il délègue ses pouvoirs à ses enfants, agissant de concert avec eux au moment opportun. Ça me fait penser aussi à ce passage de l'Épître aux Hébreux. Voyez-vous, c'est important d'avoir la parole de Dieu dans son cœur parce que l'Esprit de Dieu, il est en train de faire remonter les choses. C'est important parce que il est dit dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 4, nous avons un tel souverain sacrificateur qui intercède, pas seulement qui intercède, mais qui est capable de compatir à nos infirmités. Donc, si le Seigneur voit une personne venir à lui, avec ce désir dans son cœur sincère d'être une fois pour toutes libéré de ce qui l'empêche d'être épanoui dans le Seigneur, alors Dieu va agir. Je suis l'Éternel, dit la parole de Dieu, qui sonde les cœurs et les reins. Dieu sait très bien ce qu'il y a dans nos cœurs. Luc. Donc, il reconnaît d'abord Jésus comme Seigneur et ensuite invoque sa pitié. Seigneur, aie pitié de mon fils. Et vous allez voir pourquoi cet homme va invoquer la pitié du Seigneur, la compassion du Seigneur pour son fils. Nous allons voir pourquoi. Il va dire, aie pitié de mon fils. Seigneur, aie pitié de mon époux. Seigneur, aie pitié de ma femme. Seigneur, tu peux toutes choses. Seigneur, c'est toi qui libères. Seigneur, montre-nous. Seigneur, accorde-nous le discernement, les discernements des esprits. Seigneur, donne-nous de discerner par la vue certaines choses. Si nous sommes sur cette plateforme, nous sommes sur le bon fondement. Aie pitié. Luc, lui, dans le chapitre 9 et le verset 38, il va relater plutôt le dialogue entre l'homme et le Seigneur. Et là, nous allons comprendre tout le souci du Père. Voyez-vous, il faut bien connaître le peuple d'Israël. Si vous voulez parler de ces choses sans connaître ce que Dieu a donné à Israël, c'est impossible de comprendre ce texte. Ce fils que cet homme a, c'est son fils unique. Donc c'est sa descendance. Et en tant que fils premier-né, c'est lui qui a la double part. C'est un enfant qui devrait avoir la pleine bénédiction. Et à cause de ces choses, le père, dans son cœur, il est complètement bouleversé. Faut bien comprendre. Pourquoi il dit, aie pitié de mon fils, parce qu'il est son unique. Parce que c'est son premier-né. Parce que normalement, il doit avoir la double part en tant que premier-né. Et dans tout ça, il a rien du tout. Au contraire, il est jeté dans l'eau et dans le feu. Mais dans le dialogue de Luc, alors il y a une autre vision une autre approche que Matthieu. Regardez bien. Luc 9, 38, et voici, du milieu de la foule, un homme s'écria, « Maître !» Ça, c'est important. « Je t'en prie, porte les regards sur mon fils, car c'est mon fils unique. » Ah, voilà l'information. C'est l'unique. C'est celui qui devrait assurer sa descendance. C'est celui qui devrait avoir la double part. C'est celui qui a le droit d'aînesse. Il va lui dire, « Mon fils unique, ça veut dire, je n'ai point d'autre. » Le Père, dans ce passage de l'évangile de Luc, il va reconnaître Jésus comme maître, c'est-à-dire comme rabbi. Important, important. Les mots sont très importants. C'est-à-dire comme celui qui a autorité pour enseigner. Il le reconnaît. Tu es rabbi, tu es maître. C'est le mot en hébreu. Et c'est le même en grec. C'est toi qui as autorité pour enseigner. Nous pouvons que penser que cet homme a dû entendre les enseignements de Jésus aux foules. Il était certainement dans les foules quand Jésus enseignait. Et vu les miracles et les prodiges du Seigneur, il le reconnaît donc comme rabbi. D'abord, je vous ai dit tout à l'heure, si tu veux être libéré, il faut que tu reconnaisses Jésus comme Seigneur, comme Maître, comme rabbi. Il faut que tu le reconnaisses. Je vous dis, on ne peut pas jouer avec les choses de Dieu. On ne peut pas jouer avec les dons spirituels. On ne peut pas jouer avec le Saint-Esprit. On ne peut pas mentir à Dieu. Jésus lui-même n'a-t-il pas dit, dans Jean 13, 13, il a dit, vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Maître et seigneur. Matthieu dit seigneur, Luc dit maître. Et les deux font un. C'est beau. Voyez-vous, on a intérêt de prendre les textes, de les rassembler et de reconstituer l'histoire, cette histoire qui s'est passée, qui est pour notre instruction, pour l'Église, aujourd'hui. Il invite le maître, je t'en prie, porte les regards sur mon fils. Il invite le maître donc à jeter ses regards sur son fils. Regarde-le, c'est mon unique, c'est mon bekor, c'est mon prototokos, c'est le premier-né. D'entre les morts, Jésus, le prototokos. C'est mon premier-né, c'est mon chéri. C'est celui sur lequel repose toute ma descendance. S'il n'y a pas de descendance, c'est une malédiction. Il invite le maître à jeter ses regards sur son fils. Le problème, c'est son enfant. Jette les yeux sur mon fils, Luc 9, 38. Porte les regards sur mon fils. Car c'est mon fils unique. En fait, cet homme va dire à Jésus, « Sois favorable à ma demande, prends pitié, maître Rabbi, exerce la miséricorde, s'il te plaît, et compassion, ne te détourne pas. » Telle est la supplication du Père. Pourquoi un tel désespoir chez le Père? Mais justement, à cause que c'est son fils unique. Il est désespéré. Il voit son fils être dans des situations pas possibles, jeté dans l'eau et dans le feu. Il va perdre sa descendance. Il va perdre son unique, son fils. C'est pour ça qu'il invoque au Seigneur il invoque le Seigneur en lui disant, mais aie compassion, exerce la miséricorde, prends pitié de lui. Comme va dire, n'est-ce pas, Matthieu, c'est pareil. Verset 15, Seigneur, aie pitié de mon fils. Aie pitié de mon fils. Seigneur, aie pitié de ma femme. Seigneur, aie pitié de mon épouse. Seigneur, aie pitié de mon enfant. Seigneur, aie pitié de mes enfants. Seigneur, exerce ta compassion et ta miséricorde sur mes enfants. Chez Luc, il est son unique. C'est un cri déchirant avec tout ce que cela représente, n'est-ce pas? La descendance de sa famille, le droit d'aînesse, la double part, etc. J'en ai pas d'autre, il va dire. J'en ai pas d'autre. Tu connais cela, maître. Tu connais cela, Rabbi. J'en ai pas d'autre. Tu sais, Rabbi, que si j'ai pas d'autre fils, ma descendance s'arrête. Et c'est une tâche en Israël. Tu sais, Rabbi, que c'est mon unique. Et quel a été le cri du Père quand le Père a donné son fils unique? Les textes l'appellent fils, dans Matthieu 17, 15. Dans Luc 9, mon fils. Dans Marc, c'est encore mon fils. Comment est cet enfant? Et qu'a-t-il de particulier pour que le Père se mette dans un tel état? Pourquoi va-t-il se jeter à genoux aux pieds de Jésus en invoquant la miséricorde du Seigneur? Qu'est-ce qui fait que son enfant ait un si grave problème? Qu'est-ce qui fait que le Père soit si affolés qu'ils puissent venir se jeter aux pieds du Seigneur. Chez Luc, Luc dit que c'était un esprit qui le saisit. Chez Marc, il dit que c'était un esprit muet et sourd. Et chez Matthieu, il dit que c'est un lunatique. Ah, y aurait-il des contradictions? Mais pas du tout. Parce que le lunatique offre tout ce type de réaction. Alors, la parole de Dieu ne se contredit pas. Il n'y a pas une contradiction entre les évangiles. Car l'éclairage du Saint-Esprit est formidable. Qu'est-ce qu'un lunatique? Le mot grec, c'est les nadizo, veut dire être épileptique, être sorcier ou devin, travailler sous l'influence de la lune. Vous allez voir que c'est pas en vain ce mot. Le mot lunatique n'est pas un mot en vain, n'est-ce pas? Vous allez voir pourquoi. La lune. Nous avons là une approche assez particulière de cette scène. La relation du drame de l'enfant avec cette partie occulte que nous révèle le texte. Nous savons l'imitation de Satan concernant les commandements que l'Éternel avait donnés à son peuple, et particulièrement ceux concernant la lune. Dieu avait ordonné que toutes les fêtes de son peuple commencent en néoménie, c'est-à-dire au moment où la lune se levait. Elle devait présider au commencement de toutes les fêtes ordonnées par l'Éternel. Sonnez la trompette à la nouvelle lune, à la pleine lune au jour de notre fête, car c'est une loi pour Israël, une ordonnance de Dieu pour Jacob. Mais Satan imite aussi les fêtes de l'Éternel. Il fera son sabbat satanique, ses sacrifices à la pleine lune. Il fera en sorte d'imiter les choses de Dieu. Mais bien aimé, quand la pleine lune, vous voyez la pleine lune à Montpellier, je vous demande une seule chose, rappelez-vous de cela, priez pour que ce soir-là, il n'y ait pas de sacrifice d'enfants, qu'il n'y ait pas de sacrifice dans la ville de Montpellier ou dans la région. Je me souviens d'une fois, il y a quelques années, j'étais en train de marcher la nuit, il y avait la pleine lune, et j'ai dit à mon épouse, Yvette, ce soir, à cette pleine lune, il va avoir, Satan va faire des sacrifices d'enfants. Je me rappelle que le lendemain, sur le journal, un enfant avait été sacrifié la nuit. Une information sur un journal, le Midi Libre. Frères et sœurs, vous croyez que ces choses sont des fables? Vous croyez que ce que l'Écriture dit n'est pas une réalité spirituelle? C'est au moment de la pleine lune que les pactes de sang sont faits. C'est au moment de la pleine lune où les enfants qui sont nés d'adultère dans le monde satanique sont consacrés à Satan. C'est le moment où dans les familles qui pratiquent les choses occultes, le vaudou, etc., ils consacrent leurs enfants à Satan. À la pleine lune, alors que la pleine lune devait être pour le peuple de Dieu un commencement des fêtes pour se réjouir, Satan, lui, il a pris cette fête et il se réjouit dans les sacrifices humains. Vous croyez que ça n'existe pas, les sacrifices humains? Mais vous rêvez. Mais vous rêvez. Vous êtes loin d'imaginer, sur le plan spirituel, l'importance que ça a pour le royaume des ténèbres de faire ces sacrifices. La puissance augmente. Donc cet enfant est lunatique et l'esprit qui le possède le prive de ses organes. Il est sourd et muet. Il tient l'essence de cet enfant. Il le possède, agit sur son corps, il lui fait perdre la raison. Est-ce que vous avez jamais vu un épileptique? D'abord, c'est pas beau à voir. C'est même, ça effraie un peu. Mais pour ceux qui ne sont pas avertis, bien sûr, ça les effraie. Mais pour ceux qui sont avertis, nous allons voir que l'enfant épileptique, cet enfant lunatique, on va se poser des questions, n'est-ce pas? Mais comment se fait-il, cet enfant? C'est un enfant, il n'a jamais fait de la sorcellerie. Attendez, on va y venir. On va y venir. Donc, il est sourd et muet, il tient ses sens, il possède et agit sur son corps, il lui fait perdre la raison. Matthieu 17, verset 15, « Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement, il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. » Le feu pour se brûler, l'eau pour se noyer. Le diable est en train de vouloir détruire cet enfant. Pourquoi? Pourquoi? En Luc 9, 39, Luc va nous dire, un esprit le saisit et aussitôt il pousse des cris. Ah, voilà. Il pousse des cris. Vous le verrez quand les délivrances sur les épileptiques se feront. Ils pousseront des cris. Et l'esprit l'agite avec violence. Vous pouvez pas le maîtriser. C'est une force surhumaine, gadaréen. Vous vous rappelez les gadaréens? Il était attaché dans les sépulcres avec des chaînes et il arrivait à casser les chaînes. C'est pas les chaînes de chez Carrefour, hein. À l'époque, c'était des gros maillons. Il l'agite avec violence, il le fait écumer, la bave, et a de la peine à se retirer de lui après l'avoir tout brisé, complètement déglingué intérieurement. En quelques lieux, Marc 9, en quelques lieux qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume a une autre information, grince des dents. Et vous le verrez. Regardez bien ces textes. Dans l'expérience, vous le verrez. Et devient tout raide, comme tétanisé, comme l'homme à la main sèche. C'est le même mot. L'homme à la main sèche. Il devient sans vie. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, ils n'ont pas pu. Alors on va récapituler. Les conséquences pour l'enfant de ce démon qui habite en lui, qui a un droit de le posséder. Voilà les conséquences. Un, l'esprit, le démon le saisit. Deux, il le fait pousser des cris. Trois, il l'agite avec violence. Quatre, il le jette par terre. Cinq, la personne écume. Six, il brise la personne. Il le fait grincer des dents. Il devient tout raide, tout sec. Il souffre cruellement. Il tombe dans le feu et souvent dans l'eau pour le faire périr. Là, c'est une destruction totale de la personne. Pourquoi? Pourquoi cet enfant? Vous êtes en droit de vous poser la question, pourquoi cet enfant? Pourquoi pas le père? Et pourquoi l'enfant? Nous allons avoir des réponses, et des réponses précises. C'est, vous savez, les choses cachées qui sont dans l'Écriture, que nous devons aller chercher avec l'aide du Saint-Esprit, où les mots qui défilent sous vos yeux, tout d'un coup, tac, ça fait tilt. Pourquoi c'est écrit ça? Qu'est-ce que ça veut dire un jeune garçon? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que le mot veut dire? Quel est-il ce mot? A-t-il 15 ans? A-t-il 16 ans? A-t-il 13 ans? A-t-il 12 ans? Quel âge a-t-il? Le texte est clair. Le mot qui est ici, c'est un mot grec qui veut dire petit enfant, au-dessous de 7 ans, c'est clair. Un enfant au-dessous de 7 ans. Il avait entre 0 et 7 ans. Et depuis 0 à 7 ans, le démon le jetait dans le feu et dans l'eau. Il le mettait en état d'épilepsie, il voulait le détruire. Donc c'est pas un adolescent, c'est un préadolescent. Il a entre 0 et 7 ans. Qui me fait dire ça? C'est que le mot grec nous l'indique, c'est très clair. Le mot paidion en grec, c'est un enfant, un jeune enfant, un petit garçon ou une petite fille au-dessous de 7 ans. Voilà, c'est clair. Donc on sait quel âge avait cet enfant. Même si le texte nous le dit pas, le mot nous le dit. Comme c'est important d'avoir la connaissance des mots. Alors, bien sûr, regardez, il est dit que Darbu traduit dès son enfance. Enfance dont le texte se réfère à un mot grec que nous venons de voir. Un enfant, un petit enfant, une jeune fille au-dessous de 7 ans. Donc nous trouvons devant un cas où la possession vient d'un droit héréditaire, d'un lien spirituel puissant dont l'enfant a hérité. Ah, voilà l'hérédité qui arrive, qui pointe son nez. L'hérédité. Hein? Le grand-père, c'était un coureur de jupons, le petit-fils, il est comme le grand-père. Le grand-père, c'était un alcoolique, le petit-fils, il s'en va dans le même chemin. Alors, comment se fait-il qu'il peut avoir un droit héréditaire? Et justement là, nous avons un texte qui est fantastique. Ce texte-là, frères et sœurs, il va falloir que nous le soulignions. parce que c'est un texte qui est dans l'Ancien Testament. Il est dit dans le prophète Jérémie. Voilà ce que Jérémie va dire. Il va dire, « Éternel, ma force et mon appui, mon refuge au jour de la détresse, les nations viendront à toi des extrémités de la terre, et elles diront, nos pères ont hérité, n'ont hérité que le mensonge. » Alors, je vais vous donner la référence. Ça doit être Jérémie 16. C'est ça. Et verset 19. Nos pères n'ont hérité que le mensonge de vaines idoles qui ne servent à rien. Et là, ça devient intéressant. C'est un verbe en hébreu. C'est le verbe nachal en hébreu. Nachal. Un verbe hébreu qui, conjugué à une forme verbale qu'on appelle le hitpael, veut dire recevoir en possession, posséder, vous les posséderez pour vos enfants après vous, c'est-à-dire pour laisser à vos enfants par droit héréditaire. Droit héréditaire. Ce verbe, il a la notion de droit héréditaire. Ils n'ont hérité que le mensonge. C'est une hérédité, le mensonge, n'est-ce pas? Vrai ou pas? Voyez-vous, le mensonge, il peut être dire directement, mais il peut être caché aussi. Et c'est pas plus beau, hein? Parce que le mensonge que vous dites, on l'entend, mais celui qui est caché, que Dieu le voit. Donc, cet enfant, qui a entre 0 et 7 ans, qui est épileptique, donc qui a hérité d'un droit héréditaire de sorcellerie, de pratique occulte, mais il n'en a jamais fait. Et pourtant, la loi de l'hérédité, même les scientifiques et les médicaux disent que l'hérédité existe. N'est-il pas dit, l'apôtre Pierre ne dit-il pas cela dans une de ses épîtres, vous avez hérité de la vaine manière de vivre de vos pères? Est-ce qu'il ne dit pas ça? Oui, oui, il le dit. Nous avons un potentiel d'héritage, tel père, tel fils, telle fille, telle mère. Nous avons ce potentiel d'héritage que nous ont transmis nos pères. Et en l'occurrence, là, cet enfant, qui n'avait rien demandé, mais qui était sous l'emprise d'un démon d'occultisme, un démon de sorcellerie qui était là, qui le tourmentait, qui le jetait dans l'eau et dans le feu, il va connaître l'évangile de la puissance de Jésus-Christ. Alléluia. Jésus va faire quelque chose d'extraordinaire. D'ailleurs, je vous fais remarquer que les disciples n'ont rien pu faire. Et qu'est-ce qu'il va dire aux disciples? Jusqu'à ce quand demeurai-je au milieu de vous, race d'incrédules? Vous rappelez la première clé, c'était quoi? Là, la foi. S'ils se servaient uniquement du nom du Seigneur, sans y mettre la foi dedans, jamais ils auraient pu délivrer cet enfant. Mais jamais, jamais. D'autant plus que la finalité de cette histoire, c'est que cette sorte de démon ne sorte que par le jeûne et la prière. Nachal. Ça veut dire par droit héréditaire. Vos pères n'ont hérité que le mensonge, nachal. Alors Jésus va dialoguer avec le Père. Et le but du Seigneur, c'est toujours d'amener le Père qui a l'autorité sur l'enfant, parce qu'un enfant est soumis au Père, n'est-ce pas, en Israël, et même dans les nations, normalement ça devrait être comme ça. Jésus, lui, va faire une manœuvre que j'appellerais la manœuvre du salut, il va amener le Père à manifester sa foi. Ça, c'est important. Au travers du dialogue avec le Père, il va amener celui-ci à manifester la foi, mais d'abord, il stigmatise l'incrédulité des disciples. Oh, jamais, jamais pour être délivré, jamais il pourrait être délivré, jamais, non, c'est trop, non, non. On a tout essayé, ça marche pas. Mais moi, ce que je sais, c'est que, à un moment opportun, au moment voulu par Dieu, la chose s'accomplira. Dieu ne veut pas que ses enfants restent sous le joug de l'ennemi. Mais tôt ou tard, la personne sera libérée. Ça prendra du temps, parce que souvent les personnes font des barrages, des obstacles entre Dieu et ce que Dieu veut faire en chacun de nous. Mais tôt ou tard, c'est Dieu qui amènera toutes choses à bonne fin. Amen. Retenez bien cela. Retenez bien cela parce qu'il y a espérance, n'est-ce pas, avec le Seigneur, de voir les choses se réaliser. Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous et vous supporterai-je? En Luc, il nous dit ça. Ensuite, en Matthieu, race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Quelle patience du Seigneur. Jusqu'à quand vous supporterai-je? Ainsi, il amène le Père à prendre conscience de manifester la foi. Jésus lui dit, si tu peux, parce que le Père a dit, si tu peux. Et écoutez, il n'y a pas de conditionnel avec le Seigneur. Que ça soit oui, oui, ou non, non, mais c'est pas si tu peux. Parce que Jésus peut. Il peut toutes choses. Si tu peux, et Jésus va lui répondre, tout est possible à celui qui il amène. Il amène sur le terrain de la foi. Tout doucement, il l'amène. Quel merveilleux Seigneur. Il va l'amener à prendre conscience de la réalité et de manifester dans sa vie la confiance au Seigneur. Parce que la foi qui va être manifestée, c'est ni plus ni moins la confiance qu'il a dans le Seigneur. Et la foi, et, n'est-ce pas? Et les ingrédients de la foi, c'est la confiance, c'est l'espérance, c'est toutes ces choses, c'est la loyauté, c'est la probité, c'est toutes ces choses qui sont dans la foi. Et Jésus va l'amener sur ce terrain-là. Il va l'amener. Ainsi, il amène le Père à prendre conscience de manifester la foi. Tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le Père s'écrie. Qu'est-ce qu'il s'écrie? Je crois. Ça y est, il a dit. Et bien souvent, c'est un simple « je crois » dans la vie d'une personne qui va amener la libération de la personne. Un simple « je crois ». Pistis, la foi. Pisteo, je crois. Aussitôt le père de l'enfant s'écrie « je crois ». Et puis tout d'un coup, il va lui dire « viens au secours de mon incrédulité. » Quel paradoxe. Mais quel paradoxe. Il dit je crois, et puis il dit, mais viens au secours. Je suis quand même un peu au fond de moi, j'ai un peu quelque chose qui traîne, j'ai un peu d'incrédulité, s'il te plaît, viens me débarrasser de cette chose dans mon cœur. C'est pas souvent ce que nous pensons. Oui, je crois, mais c'est peut-être pas pour moi. Oui, je crois, mais c'est pas possible pour moi. Pourtant, l'Écriture nous dit que tout est possible à celui qui croit. Tout! Tout est possible à celui qui croit. Qui croit. Tout en aidant le Père, donc, à manifester la foi, Jésus, maintenant, il est sur le bon terrain. Il peut s'approcher de l'enfant. Ça y est. La foi, ça a été la clé. Ça a ouvert la porte. Alléluia. Combien de fois la foi ouvre la porte à la libération? La porte est ouverte. Jésus s'approche de l'enfant et aussitôt la présence du Dieu Tout-Puissant va agiter le démon et ce dernier essaiera jusqu'au bout de malmener l'enfant. Vous vous rappelez quand Jésus venait devant des démoniaques, qu'est-ce qui se passait? Les démons criaient « Ah ! Pourquoi tu viens nous tourmenter avant longtemps, Jésus, fils de Jésus de Nazareth, Jésus le fils de Dieu, Jésus le Saint, Jésus. Pourquoi? Quand le Seigneur vient, quand la lumière vient, les ténèbres s'enfuient. Quand la présence du Seigneur est là, quand dans notre exercice de la foi, par exemple dans la louange, dans l'adoration, que nous sommes un dans la louange et dans l'adoration, et la présence du Seigneur vient, la puissance du Seigneur est à notre disposition. Que c'est beau, n'est-ce pas? Luc nous relate un détail intéressant au verset 42 de Luc 9. Comme il approchait, le démon le jeta par terre et l'agita avec violence. Il va rajouter, Luc, que le démon le jeta par terre. Voilà. Marc va nous dire que la demande du Père va se traduire ainsi, mais si tu peux quelque chose, il parle plus du Fils, il va dire, viens à notre secours. Moi le Père et mon Fils. Et il va dire, mais aie compassion de nous. Il va s'assimiler, s'identifier à son Fils. Alléluia. Aie compassion de nous. Aie pitié de nous. Secours-nous, secours mon fils. Et en même temps, secours-moi. Moi aussi j'ai besoin de croire. Le Père avait besoin de croire. Si tu peux, c'est croire. Si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. En Matthieu 17:16, je l'ai amené à tes disciples, ils n'ont pas pu le guérir. Alors là, ils pensent que c'est une guérison. Mais je vais vous dire quelque chose, frères et sœurs, que la délivrance est une guérison. C'est comme le salut est une guérison. Et dans le salut, il y a la guérison. Un plein salut s'accompagne de guérison intérieure, extérieure. Parce que Dieu est un Dieu qui restaure. C'est le Dieu de la restauration. Je loue l'Éternel, mon Dieu, qui restaure mon âme. Dit le psalmiste, qui restaure mon âme. Je l'ai amené à tes disciples, ils n'ont pu les guérir. En Luc, j'ai prié tes disciples de les chasser, ils n'ont pas pu. Les évangiles vont nous révéler des réponses lourdes de conséquences quant à la foi. Les disciples n'ont pas pu le guérir, ils n'ont pas pu chasser ce démon. Devant cette impuissance, la demande du Père va se traduire ainsi, mais toi si tu peux. Voyez-vous, notre incrédulité va communiquer aux gens, notre incrédulité. Ils vont dire, peut-être que Jésus, peut-être lui, il peut. Notre incrédulité va communiquer aux autres notre incrédulité. Et le Père va dire, et toi, si tu peux, comme si Jésus ne pouvait pas. Attention de pas communiquer aux autres notre état d'esprit défaitiste. La parole de Dieu nous déclare que nous sommes plus que vainqueurs en celui qui nous a tant aimés. Que nous régnions avec lui maintenant, pas demain, ni après-demain, maintenant, sur la terre. Nous sommes dans le règne de Dieu, maintenant, que nous ne le voulions pas, nous régnons. Même si cela n'est pas vu, n'est pas connu, nous régnons, parce que la parole de Dieu nous dit, nous régnons maintenant, dans Romains chapitre 8. Souvent, notre incapacité à pratiquer la foi véritable et notre manque d'autorité dans le nom du Seigneur peuvent être une source de doute pour les autres. Je répète, souvent, notre incapacité à pratiquer la foi véritable et notre manque d'autorité dans le nom du Seigneur peuvent être une source de doute pour les autres, de dévalorisation du Seigneur et un manque de foi quant à la puissance que Dieu peut manifester. Je puis toute chose par celui qui me fortifie. Mais le détonateur qui va avoir un impact auprès du Seigneur, c'est cette parole du Père qui va dire, aie compassion, ils vont en appeler à l'amour de Dieu. Ils vont en appeler à l'amour de Dieu. Aie compassion. Le résultat, c'est que la puissance de Jésus-Christ va être révélée par amour pour cet enfant et par le moyen de la foi du Père. Jésus va aimer l'enfant, il va le libérer grâce à la foi du Père. Car c'est Jésus qui a amené le Père sur le terrain de la foi. Regardez, il a manifesté les deux, foi et amour. Et les trois resteront l'amour, la foi et l'espérance. Et l'amour, c'est le plus grand. Alléluia. Et Jésus va manifester cet amour pour cet enfant. Par l'amour et compassion, va toucher le cœur de Jésus, cet homme. Et l'amour du Seigneur va être manifesté pour cet enfant. Et la foi du Père rajoutée va faire que l'enfant va être libéré. Alléluia. Amour et foi. Amour et foi. Et si vous n'avez pas d'amour quand vous faites une délivrance sur une personne, ce n'est pas la peine de prier pour elle. Si vous n'avez pas de compassion parce que cette personne souffre, ce n'est pas la peine de prier pour elle. Si vous voulez exercer le ministère de la délivrance ou le service de la délivrance uniquement comme un apprenti sorcier qui prendrait son joujou pour faire la chose, ça ne marchera pas. Au contraire, vous risquez d'avoir des retours de manivelle très sévères. Le résultat, c'est que la puissance de Jésus-Christ va être révélée par amour pour cet enfant et par le moyen de la foi du Père. Et Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et déduit et lui dit, esprit muet, sors, je te l'ordonne. Voyez-vous, frères et sœurs, qu'est-ce que nous disions l'autre jour dans les clés? Nous disions que celui qui donne un ordre ou un commandement ne doit pas être incrédule à ce commandement. Au nom de Jésus, mais je ne crois pas que ça va marcher. Voyez-vous, nous sommes de faibles personnes, faibles hommes, faibles femmes. Mais si nous restons sur le terrain de la soumission à Christ, nous verrons des grandes choses avec le Seigneur. Des choses grandes qui vont nous paraître grandes à nous et qui sont dans une normalité dans le royaume de Dieu. Des signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Le signe, c'est que l'enfant va être libéré. Et de quelle manière? Et de quelle manière? Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur. Il lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Et il sortit, alléluia, il sortit, le démon, en poussant des cris. Il a squatté l'enfant depuis 7 années pratiquement. Les squatteurs, on les déloge, n'est-ce pas, de leur squat. Si tu viens squatter une maison qui est inhabitée et que tu rentres dedans, à un moment donné, on va te faire sortir de la maison. Et ces démons étaient venus squatter cet enfant. Ils étaient venus habiter par droit héréditaire. Ils sont rentrés dans la vie de cet enfant. Mais ça devait être horrible de voir un père voir son enfant jeté dans l'eau et dans le feu. De voir une autodestruction de son fils, son unique, le seul enfant qu'il avait. Que le démon le jetait dans l'eau et dans le feu. Il faisait tout pour le détruire. Soit pour le brûler, soit pour le noyer. Il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec grande violence. Oui, vous savez, quand il y a une délivrance, quand les démons sortent, ils sortent et ils agitent la personne. C'est pas en vain, vous les délogez d'un endroit où ils étaient bien à l'aise dedans. Ils partent, mais ils partent pas sans faire de bruit. Tu fais pas sortir quelqu'un de chez lui, hein, comme ça. Hein, on te dit, tiens, une injonction pour sortir, et tu vas faire de la résistance. Moi, je reste. Non, je veux pas. Je reste. J'ai mes meubles. J'ai ma vie ici. Je veux pas sortir. L'enfant devint comme mort. C'est dans Marc 9, 23. Il devint comme mort. Il tomba raide. Il était sans vie, comme mort. Combien de fois nous avons vu des personnes par terre, morts. On était comme s'ils étaient morts. On fallait leur taper sur les joues pour qu'ils reviennent parce que les démons les avaient complètement enfarinés. L'enfant devint comme mort de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever, il se tint debout. Luc va dire, comme il approchait, le démon le jeta par terre et l'agita avec violence. Mais Jésus menaça, menaçait l'esprit. Au nom du Seigneur, tu sors de cette personne. Tu menaces parce que tu as l'autorité. C'est comme la justice menace de t'expulser. Et elle en a le droit. Et dans le nom du Seigneur, tu peux exercer cette autorité. Marc va dire, n'est-ce pas, Luc va dire que Jésus menaça l'esprit impur, guérit l'enfant et le rendit à son père. Voilà, il le menaça, il l'a guéri, il l'a rendu à son père. Mais les autres évangiles nous donnent une foule de petits détails qui sont très intéressants, n'est-ce pas, à voir. Matthieu dit, Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Jésus menaça le démon, lui parle sévèrement, le nomme, vous devrez nommer les esprits parce que vous les aurez discernés. Il lui ordonne de sortir et surtout de ne plus y entrer. Il faut fermer la porte. Ce dernier sort en poussant des cris agitant violemment l'enfant. Suite à cette expulsion, l'enfant devint comme mort, mais il fut guéri. Quel merveilleux enseignement du Seigneur pour nous qui vivons aujourd'hui et qui, dans ces temps de ténèbres, sommes confrontés à de tels combats. Donc le cas de l'enfant épileptique est un cas où abonde une foule de détails. Ne vous étonnez pas si un jour vous voyez une personne épileptique qui vient ici, au moment de la louange et de l'adoration, qui tombe et qui fasse une épilepsie au milieu de nous. Nous saurons quoi faire, n'est-ce pas? On ne dira pas, tiens, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, la pauvre, donne-lui un verre d'eau à boire. Oh, relève-toi, s'il te plaît. Oh, c'est pas rigolo. Parce que quand ça arrive, ça trouble. Et les chrétiens mal affermis, ils ne comprennent rien du tout. Ils disent, il se passe des choses bizarres dans cette église. Alors, le conseil que j'ai à vous donner ce soir, c'est, je peux vous donner un conseil, c'est ne regardez jamais une scène de l'évangile sans avoir l'éclairage des autres évangiles. Reprenez la même scène dans les autres évangiles, faites une collation de toutes les informations et regardez l'histoire et vous allez avoir toute l'histoire. Vous allez avoir une foule de détails très intéressants. Par exemple, l'enfant, 7 ans, 0,7 ans, il avait un droit héréditaire, c'était son unique. Les conséquences d'un fils unique en Israël, c'est impossible de comprendre la réaction des parents si c'était le fils unique. Tout ça, c'est une foule de détails qui doivent nous enseigner et nous faire prendre en considération que l'Église, qu'elle le veuille ou non, et l'Église, c'est toi mon frère, c'est toi ma sœur. Que vous le vouliez ou non, nous sommes en guerre et nous sommes dans un grand combat. Et ces choses, n'est-ce pas, vont se manifester, se manifestent déjà depuis longtemps, n'est-ce pas, pour ceux qui ont déjà reçu de la part du Seigneur instruction et qui l'ont pratiqué. Mais je pense à certains serviteurs qui sont dans l'évangélisation, qui sont des pasteurs ou des prophètes et qui se trouvent confrontés à de telles manifestations. Frères et sœurs, l'Écriture ne nous laisse pas sans lumière. Nous aurons à considérer, frères et sœurs, dans les prochains enseignements, si Dieu le permet, comment les esprits travaillent en groupe. C'est pour cela que quand nous prions pour une délivrance, il faut discerner quel est l'homme fort qui tient la personne. Lier cet homme fort. Et ensuite, eh bien, délier la personne dans le nom du Seigneur. Parce que nous avons une attitude de vainqueur. Puisque Jésus nous a dit, tout ce que vous liez sur la terre a été déjà lié dans les cieux. Et tout ce que vous déliez sur la terre a été déjà délié dans les cieux. Nous rentrons simplement dans la victoire du Seigneur et dans les commandements du Seigneur pour accomplir l'œuvre par le Saint-Esprit que Jésus nous a demandé de perpétuer. Nous sommes les pieds de l'Église et les pieds sont sur la terre, n'est-ce pas? Et Paul va dire dans Romains 15, il va dire, et bientôt le Dieu de paix mettra Satan sous vos pieds. Il met le royaume des ténèbres sous les pieds de l'Église. Malheureusement, l'Église est aveugle. Elle est aveuglée. Elle est sourde. Elle veut l'évangile de la prospérité, de la bénédiction. Elle désire l'évangile qui dérange pas trop. Mes frères et sœurs, Jésus, dans son service terrestre, dans son ministère terrestre, s'il vous plaît, prenez vos Bibles, prenez un crayon jaune, un surligneur jaune, et regardez les 4 évangiles, et vous verrez, et soulignez, combien de fois Jésus a guéri les malades et chassé les démons. Vous allez être étonnés. Même si c'est bis repetita dans les évangiles. Mais les évangélistes disent les mêmes choses. Et vous verrez qu'à pléthore de délivrance. C'était normal. Il y avait confrontation du royaume de la lumière contre le royaume des ténèbres. Ils ne pouvaient pas supporter la présence du Seigneur. C'est pour ça qu'ils disaient, pourquoi viens-tu nous tourmenter avant le temps? Fils de David, tu es le Saint de Dieu. Tu es le Fils de Dieu. Ils le connaissaient dans le monde spirituel. Ils savaient qui il était. Et nous, nous disons, hop, Jésus c'est un homme historique. La Bible, c'est un ramassis d'écrits d'hommes. Je vous dis, ça c'est parole de Dieu. Et ça c'est la partie que Dieu nous a donnée à connaître. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand on sera devant lui, alors la connaissance totale nous sera donnée. Et à ce moment-là, mon frère, ma sœur, on s'agenouillera devant lui en l'adorant. S'il nous a donné la part qui était suffisante pour nous. Soit nous la prenons, ou soit nous la rejetons. Mais je vous dis ce soir, moi je veux la prendre. Hein. Je veux la garder. C'est utile dans le service. C'est utile dans le service. C'est pas l'apanage ni des prophètes, ni des pasteurs, ni des évangélistes, ni des docteurs. C'est pas un don spirituel. C'est simplement un signe qui accompagnera la foi, ceux qui auront cru.
Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle, www.letabernacle.net.